André Alain Atundu, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que les députés de la majorité peuvent demander à la Cour constitutionnelle d'interpréter un article ou des articles qui sont clairs et sans aucune obscurité, parce que l'interprétation n'est sollicitée que pour une disposition obscure, n'est-ce pas?
Oui, la clarté juridique ne signifie pas la clarté sociologique et politique. Si les textes sont clairs, l'interprétation des hommes politiques prête à confusion et risque de nous amener dans un dérapage démocratique. Voilà pourquoi, pour mettre fin à cette confusion politique et sociale, les députés de la majorité, usant de leurs droits, se sont adressés à qui de droit pour que l'avis donné par la Cour puisse s'imposer à tous. Parce que, en cas d'action contre cet article, ce sera l'avis de la Cour qui va trancher. Pour faire une économie de procès éventuels, eh bien, les députés, je pense, ont été bien inspirés.
Et vous dites qu'il y a la clarté juridique, mais il faut rechercher plutôt la clarté sociologique. Qu'est-ce que vous entendez par la clarté sociologique?
La clarté sociologique, c'est cette confusion sans base juridique. Vous avez dit que les textes sont clairs, mais il y a des groupes de gens qui prétendent que les textes n'est pas clair, parce qu'ils donnent des interprétations différentes.
Qui sont ces gens? Ce sont les gens de la majorité qui prétendent que ce n'est pas limpide.
Non, non, non. Je parle ici au nom de tout homme politique de bonne foi. Il ne s'agit pas d'une question de la majorité, c'est une question républicaine. Lorsque une partie de l'opinion considère que tel texte juridiquement limpide n'est pas compris et qu'il y a deux ou trois groupes qui ont des avis différents, un groupe peut être fondé à demander à la Cour constitutionnelle quel est l'avis de la Cour pour que cet avis puisse mettre fin à ces contestations ou à ces divergences d'opinion.
L'article 70 de la Constitution n'a que deux alinéas qui stipulent ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le deuxième alinéa, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Est-ce que cet alinéa est compliqué? Même les élèves de l'école primaire peuvent comprendre cela.
Bon, je ne sais pas si les enfants de l'école primaire peuvent le comprendre, mais je dis ceci, contre les faits, les arguments ne valent rien. Vous pouvez prétendre que cet article est clair, mais la réalité sur le terrain nous montre que cet article est source de confusion sociologique et politique. Voilà pourquoi il faut que la Cour tranche. En plus, cet article de la Constitution est en rapport avec deux ou trois autres que les députés ont signalés, qui tranchent sur le mandat de tous les élus, notamment le chef de l'État, les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux. Et donc voilà, c'est plutôt une démarche citoyenne pour rassurer que le comportement des uns et des autres est vraiment conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution.
Les requérants font allusion au glissement des mandats des sénateurs et des députés provinciaux en demandant à la Cour constitutionnelle d'interpréter aussi les articles 103 et 105 de la Constitution. Ils sous-entendent qu'ils peuvent aussi attendre l'installation des nouveaux députés élus pour céder la place. Est-ce que ce n'est pas un raisonnement par analogie?
Je pense qu'il ne faut pas enlever le cas du président de la République de son contexte. Il s'agit ici de faire une démarche institutionnelle dépersonnalisée. Le chef de l'État auquel fait allusion l'article 70, ce n'est pas Kabila.
On n'a pas donné le nom de
l'institution qui est en charge du
l'institution président de la République.
Pays. Si cette institution disparaît dans le cadre de notre constitution, eh bien n'importe qui peut prétendre à prendre le pouvoir. Parce que chez nous, le pouvoir se passe à la suite d'une victoire électorale.
La majorité au pouvoir est accusée de mauvaise foi de vouloir proroger le mandat présidentiel sans organiser les élections. Si vous contestez cette mauvaise foi, peut-on au moins savoir où sont parties les allocations budgétaires pour la tenue des élections?
L'argent, il ne faut pas avoir une amnistie sélective sur la vie de la République. Lorsque le président a été élu en 2011, quelques mois après, au mois de mars, je crois, 2012, il y a eu rébellion de M23. Eh bien, pour combattre cette rébellion, ceci nous a pris 2 ans. Et les conséquences pour normaliser la vie se poursuivent jusqu'à ce jour. Et vous pensez bien, si on peut faire un petit calcul, sur le plan électoral, nous devrions mettre de côté 250 millions par an de côté. Or, la guerre coûte au minimum 1 million de dollars par jour. Alors, faites le calcul, c'est 300 millions par an pratiquement, même plus. Et ça signifie que la cagnotte qui était réservée pour les élections ne pouvait qu'être consommée par la lutte contre ces ennemis de la démocratie.
S'il n'y a pas eu élection des députés provinciaux depuis octobre 2015, c'est parce qu'on devait faire la lutte contre l'ennemi de la démocratie.
Sortez pas mes propos de contexte. Je suis en train de vous expliquer le contexte général du pays et les incidences de cette lutte sur la vie démocratique. Les ennemis prennent Goma et ils ont décidé d'arriver à Kinshasa. Au lieu de les combattre, nous allions organiser les élections.
C'est ça que j'ai fait dans ma passion.
Ils n'avaient pas les chances de
pour les élections. Oui.
Alors, voilà pourquoi je crois qu'ici, c'est le président de la République, en tant que garant de la nation, a pris une décision souveraine au regard de sa conscience républicaine et des impératifs de son devoir.
Donc, les élections, ce n'était pas une priorité. Il fallait d'abord la sécurité du pays.
Vous tirez toutes les conclusions que vous voulez, mais il y a un principe qui dit il faut d'abord exister, vivre pour pouvoir réfléchir et spéculer.
Merci André Atundu.
Merci.